sommes en urgence, c'est-à-dire que nous sommes en état spécial d'alerte pour cette condition-là en ce moment.
Alors, quelles sont les mesures de prévention adaptées?
Les mesures de prévention adaptées pour le coronavirus, c'est qu'il faut suivre les normes spécifiées par l'Organisation mondiale de la santé et par le CDC en ce qui concerne les États-Unis, c'est-à-dire les normes d'hygiène basilaire, c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle la distance sociale, le social distancing, rester éloigné de ses pairs, d'autres individus, d'au moins 6 pieds, et aussi de laver les mains de manière constante. On croit que les modes de transmission aussi se font aussi par le toucher, par le contact direct de gouttes salivaires, donc laver les mains et aussi se couvrir le visage et aussi la toux en cas d'accès de toux, voilà, pour protéger aussi son entourage.
Alors, quelle est la dangerosité du virus? Est-ce que l'on en sait un petit peu plus? Là, on peut voir dans le monde que l'on emploie des moyens de protection encore plus drastiques que pour Ebola.
Voilà, Nathalie, très très bonne question. En fait, le coronavirus, c'est une inconnue. On l'appelle novel coronavirus parce qu'en fait, c'est un virus qui n'a jamais infecté l'espèce humaine jusque-là. Donc, tous les scientifiques, tous les laboratoires du monde sont en train d'apprendre en même temps l'évolution de ce virus. On ne sait pas, c'est une inconnue. Et donc, c'est très, 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 très compliqué parce qu'en fait, personne ne sait exactement la virulence et le taux d'infectiosité de ce virus. Bon, on croit que 14 jours, c'est le temps d'incubation, mais on ne sait vraiment pas. Et donc, et plus, ça c'est de ma pratique quotidienne sur le terrain, objective, plus on avance, plus on découvre de nouveaux symptômes et plus on découvre le nouveau comportement de ce virus-là chez nos malades.
Alors, quelle est la progression de la maladie au niveau local et régional? Vous êtes dans le Maryland, dans le comté de Prince George. Comment cette maladie évolue-t-elle?
Tous les services qui ne sont pas reconnus essentiels ont fermé. Nous sommes la seule unité qui sommes encore ouverts dans le département ici de la santé. C'est pour vous dire comment le service de la santé d'abord essaye de protéger d'abord les travailleurs aussi qui viennent et qui sont exposés. Et donc, c'est très, 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 très compliqué. Il y a quelques 2 semaines, on n'avait que 3 cas. Et là, on est monté à 10 cas. Et aujourd'hui, on est presque à 300 cas, juste pour ce comté, qui n'est qu'une infime partie du Maryland et une infime partie des États-Unis. Et ça augmente de manière exponentielle, je vous dis. Donc, c'est très, très sérieux. Et aussi, on essaie de protéger les patients et aussi les travailleurs. Parce que nous qui sommes sur le terrain, il faut qu'on travaille, il faut qu'on prévienne l'évolution de cette maladie-là, qui est très, très, très virulente. Donc, c'est pour cela que on fait très attention. On a des mesures spéciales qu'on a instaurées. Chaque matin, pour chaque travailleur, on prend les températures à la rentrée du bureau. Et il y a aussi une infirmière qui se promène dans tous les couloirs et s'assure que personne n'a des symptômes particuliers et personne ne tousse ou personne n'a des symptômes qui peuvent être synonymes de risque pour les travailleurs et aussi pour les patients aussi qui sont là.
Alors, les moyens de guérison, autant que possible, hein, est-ce que vous avez le cas de patients gravement atteints qui ont guéri?
Nathalie, c'est très, très triste à dire. Avant-hier soir, j'ai perdu un de mes patients. Ça m'a fait mal parce que vraiment, il commençait à aller mieux. Je parlais avec lui il y a une semaine. Il m'a dit que, écoute, Sona, je dois arrêter l'interview parce que je ne me sens pas bien. Je suis à bout de souffle. J'ai dit, OK, quand vous avez un peu plus de temps, je vous appelle. Après, je l'appelle le lendemain. Il a dû être transporté aux urgences parce qu'il avait des difficultés respiratoires. Et je vous parle de quelqu'un de 49 ans qui était en très, très, très bonne santé, qui n'avait aucune condition préexistante, qui pouvait prédire vraiment un destin comme ça, si fatal que cela. Donc, il n'y a pas de cure. Il faut qu'on soit sincère. Pour le moment, il n'y a pas de cure. Il y a ce qu'on appelle des cures de support, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a besoin de ventilateurs pour aider, pour assister les voies respiratoires à pouvoir faire leur fonction, accomplir leur fonction habituelle qui est de respirer. En fait, ce coronavirus attaque le système pulmonaire, ce qui fait qu'on ne peut pas respirer comme avant. Les poumons ne sont plus aptes à respirer normalement, ce qui fait que le corps a moins d'oxygène, l'oxygène qui est vital pour la santé et pour la vie. Et c'est pour ça que c'est un virus très, très, très dangereux. Et c'est pour ça que les urgences médicales sont submergées. On est en manque de ventilateurs parce qu'en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est de supporter la fonction respiratoire des malades pour qu'ils ne perdent pas la vie, pour en fait comment maintenir la vie.
Est-ce que l'on en sait un petit peu plus à ce propos sur les potentiels et les pouvoirs potentiels de la chloroquine?
Voilà, la chloroquine, c'est une très très bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de collègues, de médecins, de scientifiques dans le monde entier qui essayent de vérifier un peu les vertus de la chloroquine pour pouvoir soigner le coronavirus. Il y a certains qui disent, ça c'est selon les théories, que la chloroquine est censée diminuer la réplication du virus. Mais il y a encore beaucoup d'études à faire à cela. Nous décourageons du moins l'automédication par chloroquine, parce qu'il faut savoir que la chloroquine aussi a ses limites dans l'utilisation. Genre, elle ne peut pas être utilisée chez les enfants en deçà d'un certain âge. La chloroquine aussi a des effets néfastes, a des effets aussi toxiques aussi sur certains organes du corps. Donc, c'est très, très, très délicat. Nous décourageons les citoyens à faire de l'automédication avec la chloroquine. S'il vous plaît, essayez de consulter votre médecin qui pourra beaucoup plus vous guider et qui pourra aussi, avec vous, trouver la meilleure thérapie pour vous soigner. Et surtout aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de faire de la prévention, prendre de la chloroquine. S'il vous plaît, très attention. La chloroquine est d'abord dédiée aux soins pour le palu. Et même cela, elle est prouvée déjà toxique dans beaucoup de cas. Donc, s'il vous plaît, essayez d'attendre un peu qu'il y ait plus de précision en cela. Si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment y essayer, consultez votre médecin personnel pour ne pas vous intoxiquer et mettre votre vie à risque. Voilà, c'est mon conseil personnel.
En matière d'équipement, quels sont les besoins? De quoi manquent les hôpitaux? Vous avez parlé tout à l'heure notamment des respirateurs, mais quoi d'autre encore?
Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnels soignants qui sont vraiment à l'avant-garde de la lutte, qui sont en contact direct avec les malades tous les jours. Il y a un manque criard de masques qu'on appelle N95, qui est vraiment le masque qui protège le plus contre la maladie, contre le virus. Il y a aussi le manque de certains matériaux, ce qu'on appelle PPE, Personal Protective Equipment, équipement protectif personnel, comme des gants par exemple. Bon, les gants pas trop, mais surtout les masques N95. Il y a aussi des salopettes qui recouvrent tout le corps d'emblée, avec des chapeaux aussi protectifs qui peuvent aussi aider surtout le personnel soignant qui est en contact direct avec les patients infectés. Et ce manque est vraiment, vraiment très important. Parce qu'en fait, le nombre de malades en fait augmente de manière exponentielle. Et aussi, il y a des gens qui ne sont pas symptomatiques, c'est-à-dire qui ne vous montreront aucun signe de la maladie, mais qui sont en fait infectés. Ce sont ces malades en fait qui sont en fait ces porteurs d'infection qui sont les plus dangereux parce qu'on ne sait pas qu'ils sont infectés. Ce sont vos collègues de travail, ce sont les gens qui travaillent dans les supermarchés, ce sont les gens qui vont vous approcher, ce sont les gens qui font des métiers qui sont essentiels, donc qui sont partout dans la ville, mais qui ne montrent aucun signe de la maladie, mais en fait qui sont infectieux. Et c'est là que vous pouvez aussi être infecté sans le savoir. Et vous aussi aller infecter d'autres personnes peut-être sans le savoir. C'est pour ça qu'il faut ces équipements-là primordial. Il faut des masques, il faut des gants, il faut aussi des salopettes, des équipements qui recouvrent tout le corps, dépendant du degré d'exposition que vous avez dans la journée.
Pour terminer, pourriez-vous nous dire un mot sur vos conditions de travail? Vous avez, je crois, des volontaires d'ailleurs qui viennent travailler avec vous. Vous les formez?
Absolument. Hier déjà, on a eu encore plus une vingtaine de volontaires. Aujourd'hui encore, il y en a. On les forme. Malheureusement, nous sommes très très occupés, mais la formation est primordiale. Donc, nous prenons le temps avec les collègues plus expérimentés et nous faisons des séances pratiques, des séances de classe. Nous les formons à comment nous aider à répondre à la demande aux questions des citoyens. En fait, nous avons instauré un numéro vert depuis maintenant un mois et demi. Comme ça, les gens appellent les citoyens. Et nous, en tant que département de la santé, on n'aide pas seulement les citoyens, on aide aussi les hôpitaux de la région, on aide les médecins, on aide tout le personnel soignant et non soignant qui ont des questions et aussi qui aussi ont besoin de support matériel, didactique, pour pouvoir aussi, de leur côté, aider leur communauté, aider leurs patients, aider leurs entités. Nous avons des universités tout entières, nous avons des étudiants qui sont des étudiants d'échange qui viennent du monde entier. Et donc, nous avons toutes ces questions-là. Nous avons l'autre responsabilité d'aider, de coordonner tout ça et d'apporter un support vraiment concret et objectif à toute cette communauté-là.
Un grand merci, Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé à Cheverly, dans le comté de Prince George, dans le Maryland. Un grand merci.
C'est moi qui vous remercie, Nathalie. Merci. Et aussi, je demande à tout le monde de vous protéger et prenez soin de vous.